Et 8h42 à Paris, on passe au journal des sports. Le football à la une, Antoine Grenier, avec en France la 25e journée de Ligue 1 et le faux pas de l'Olympique de Marseille.
Pendant que Paris battait tranquillement Rennes 4-1 et que Lille s'imposait sur Montpellier 1-0, l'OM était battu sur le fil par le RC Lens, défaite 1-0 sur un but du Marocain Nail El Aïnaoui. Marseille qui pourrait être rejoint, voire dépassé par Nice si les Aiglons s'imposent sur l'Olympique Lyonnais en clôture de cette 25e journée ce dimanche. Parmi les autres matchs au programme, Nantes 14e reçoit Strasbourg, actuel 7e. Les Canaries qui compteront sur leur nouvelle recrue, Elia Meschak, prêté par les Young Boys de Berne. Le Congolais, ravi d'évoluer en Ligue 1.
Les niveaux du Ligue 1, c'est vraiment c'est du bataille, je peux dire. Tout le monde y court, tout le monde charbonne. Donc, c'est un championnat vraiment, je peux dire aussi. J'ai rêvé aussi un jour que je puisse jouer et tout. Vous voyez, donc, c'est pas la même championnat entre championnat suisse et championnat français. Championnat France, Ligue 1, c'est des hauts niveaux vraiment aussi.
Elia Meschak avec Ndia Sessam, Nantes Strasbourg, coup d'envoi 16h15 temps universel.
Le casting du CHAN s'affine encore un peu. Les finalistes de la deuxième phase de qualification seront tous connus ce dimanche.
Avec l'Afrique du Sud qui affronte l'Égypte après le nul un partout de la semaine dernière, le vainqueur rejoindra le Malawi qui a éliminé les Comores après un succès 2-0. Autre qualifié, la Gambie qui a dominé le Gabon au tir au but. Grosse déception pour les Gabonais, notamment leur capitaine Samson Bangui.
Je dirais déçu déjà dans un premier temps par la non-qualification de l'équipe, car c'était notre objectif premier de se qualifier pour le prochain tour. Déçu aussi d'avoir manqué ce penalty qui pouvait nous qualifier, et à la fin ça s'est joué au tir au but. Donc je dirais que dans l'ensemble nous sommes déçus, je suis déçu du résultat final.
Simon Bengui avec Fritz Koum. La Gambie affrontera l'Algérie en finale de cette deuxième phase qualificative. Ça sera au mois de mai.
Et on termine avec du rugby. Au Sénégal, la sélection U18 lance sa préparation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse.
Des JOJ qui auront lieu en 2026 et les détections ont eu lieu ces derniers jours dans les régions du Sénégal, notamment à Thiès et Dakar. Et les jeunes sélectionnés vont pouvoir se tourner avec ambition vers une compétition importante pour le pays de la Teranga ou Annie Johnson Sambou.
Ce n'est que la deuxième séance, mais la pression monte déjà. Deux heures d'entraînement d'une intensité de compétition. Pour le staff des U18 de rugby, le message est clair. Malgré un statut de petit poussé, le Sénégal ne compte pas jouer les figurants aux Jeux Olympiques de la Jeunesse qu'il accueille en octobre 2026. Papis Diba Kondé, DTN du rugby sénégalais.
On a à cœur de faire une très belle prestation, que ce soit chez les jeunes filles et chez les garçons. Montrer aussi au monde qu'on a le potentiel et qu'on a aussi l'expertise pour pouvoir relever ce défi mondial.
Mais l'équipe doit faire face à un manque de moyens stressant, ce qui n'empêche pas les jeunes de faire preuve d'une grande détermination sur le terrain. Pour Aladi Malidienne, c'est le prix à payer pour vivre le rêve olympique.
Ça s'est bien passé, je me suis battu, je me suis donné à fond pour être dans l'équipe. C'est mon rêve.
Oui. Stop.
Ces Olympiades de la jeunesse seront le premier gros challenge pour les U18 du rugby sénégalais, engagés dans une course contre la montre pour mettre sur pied des sélections compétitives. Wahani Johnson Sambou, Dakar, RFI.
Et parmi les sélectionnés, un groupe prendra part du 24 au 28 mars à un tournoi au lycée français Jean Mermoz.
Et c'était le journal des sports. Merci Antoine Grenier.
RFI, toute l'actualité, Marion Cazanov.
Dimanche 9 mars 2025, à la une de l'actualité, ces violents combats dans l'ouest de la Syrie entre les forces de sécurité et des fidèles du président Bachar al-Assad. 1000 morts en 3 jours, dont 745 civils de la minorité musulmane alaouite, minorité dont est issu Bachar al-Assad. Les autorités syriennes disent vouloir ramener l'ordre dans cette région. L'armée russe gagne du terrain dans sa région de Koursk, où elle fait face depuis l'été dernier à une offensive de l'armée ukrainienne. Moscou revendique la prise de 3 villages. L'armée ukrainienne devrait être encore plus en difficulté à cause du gel de l'aide américaine. La France, elle, s'attaque à ce qui était jusque-là un tabou. Elle compte débloquer des millions d'euros, 200 millions d'euros d'aide pour Kiev. financée par les avoirs russes qu'elle avait gelés au début de la guerre. La Chine amplifie ses menaces contre Taïwan, cette île qu'elle considère comme partie intégrante de son territoire. Elle appelle ce matin, je cite, les séparatistes à s'écarter du précipice. En Allemagne, un accord de principe trouvé entre les conservateurs de la CDU et le centre-gauche. Le futur gouvernement de Friedrich Merz se dessine. Après 10 ans au pouvoir au Canada, Justin Trudeau s'apprête à laisser la main. Il avait annoncé sa démission en janvier et son camp s'apprête à nommer son successeur. Le favori est Mark Carney, qui a été directeur de la Banque centrale d'Angleterre et de la Banque centrale du Canada. Cette nomination survient en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Et puis en tennis, le Serbe Novak Djokovic, sorti d'entrée au Masters 1000 d'Indian Wells en Californie à 37 ans. Il concède jouer un peu moins bien qu'il y a quelques années. Le double tenant du titre, l'Espagnol Carlos Alcaraz, lui, poursuit sa route dans ce tournoi californien. Notre chronique L'Afrique en marche avec aujourd'hui le portrait d'une petite entreprise sénégalaise qui propose aux pierroguiers de Casamance et du Ciné Saloum de changer leurs moteurs bruyants et polluants par des moteurs électriques plus vertueux, plus silencieux et plus économiques. Explication Frédéric Gara.
Depuis 2018, Jocosun Energy, la société créée par Raymond Sarr, étudie les possibilités de remplacer un moteur essence par un moteur électrique sur les pirogues du Sénégal. L'hélice, le corps du moteur ne change pas, seule la partie carburateur est remplacée par un système électrique alimenté par une batterie rechargée au panneau solaire. Raymond Sarr, directeur de Jocosun Energy.
Ce qu'on propose aux piroguiers, c'est de nous amener leur moteur thermique et nous, avec nos mécaniciens formés et affiliés, on leur transforme ce moteur thermique en moteur électrique. On ouvre le bloc, la carcasse, et on remplace le cœur du moteur thermique par un cœur de moteur électrique. In fine, le moteur a la même tête, mais il est électrique. Et suite à ça, on relie à une batterie. Le piroguier, en faisant cette opération de rétrofit, il gagne en rentabilité et en autonomie au jour le jour, c'est-à-dire grâce au moteur électrique, il réduit à peu près de 50% ses coûts de carburant et de 3 fois ses coûts d'entretien, parce que les moteurs électriques nécessitent beaucoup moins d'entretien que des moteurs thermiques.
André Djamé est mécanicien et il fait partie de ceux qui ont été formés pour dispenser la solution moteur électrique aux piroguiers.
Oui, alors je ne le connaissais pas, mais là je connais maintenant parce que j'ai transformé 4 moteurs. C'est pour le tourisme, on l'a fait pour le tourisme. Enlever le bloc moteur essence et mettre la quitte. Si tu connais, c'est simple.
D'autant plus simple que, à quai, la société Jocosun propose d'assurer le changement des batteries déchargées par d'autres batteries rechargées, elles, ce qui assure une autonomie presque équivalente à un moteur thermique. Raymond Sarr.
Le piroguier va débourser à peu près 100 000 francs. Pour faire cette opération de rétrofit. 150 euros. Donc, on lui apporte un moteur qu'on lui propose en leasing, donc il va payer en plusieurs fois, et on lui loue des batteries au jour le jour. Tout l'enjeu est de contourner la barrière de l'investissement initial. Donc, le coût de l'engagement pour le piroguier est faible, ce qui lui permet d'accéder et de se rendre compte de tous les bénéfices de l'électrique en douceur.
Aziz Gachor, l'avantage de l'électrique, Mam Biram Baro, que l'on surnomme Bio, propriétaire d'une pirogue pour touristes, l'a très vite compris.
Je trouve que c'est une très bonne idée pour le tourisme. Ça nous donne l'avantage de se rapprocher de plus près des oiseaux, parce que c'est plus silencieux. Ça ne pollue pas, donc c'est bon pour l'écosystème. Pour les pêcheurs aussi, qui font la traîne, qui ne fait pas beaucoup de bruit. C'est vraiment l'avenir pour nous, parce que l'essence, c'est pas donné. Hein. En plus, avec les batteries solaires, tu dépenses moins.
Claire O'Neill est la directrice d'un programme appelé Manufacturing Africa pour la coopération britannique. C'est elle qui a cofinancé ce projet d'électrification des pirogues.
C'était de tester une solution d'énergie propre qui présentait un avantage économique ainsi qu'environnemental. Et ce qui est intéressant par rapport au projet, c'est un modèle circulaire. Donc c'était ça qui nous a attirés pour tester ce projet. Le fait que c'est une innovation, mais une innovation qui est bien adaptée aux besoins de population locale. On avoue déjà que ça a un effet très positif sur le trajet qu'ils font avec les touristes en termes de prix, mais aussi en même temps ça préserve l'environnement marin.
Pour le moment, le projet ne compte que 5 pirogues équipées sur la Casamance et le Ciné Saloum. L'expérience ayant fait ses preuves, on passera à 20 pirogues électriques dans le courant de l'année.
La chronique L'Afrique en marche, signée Frédéric Gara. Des prisons hermétiques pour accueillir les 200 narcotrafiquants les plus dangereux de France, c'est ce qu'a promis le ministre de la Justice. Gérald Darmanin a choisi pour cela les centres pénitentiaires de Vendin-le-Veil et Condé-sur-Sarthe, des prisons de haute sécurité faites pour éviter toute tentative d'évasion. Ce choix, 2 semaines après l'arrestation de Mohamed Amra en Roumanie, il s'était évadé en 2024, évasion ultra-violente qui avait coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Le régime strict qui va être imposé à ces prisons françaises inquiète des ONG de défense des droits humains. Régime directement inspiré d'ailleurs des prisons italiennes, Anne Lenir.
En Italie, 90% des détenus dans des prisons de très haute sécurité sont des boss en lien avec les mafias italiennes. Actuellement, 727 hommes et 12 femmes sont soumis à un régime que l'on appelle le 41 bis. Ils sont coupés de tout contact avec l'extérieur et avec les autres détenus et ne peuvent sortir que 2 heures par jour de leur cellule. Ils sont sous surveillance constante avec des fouilles pluricotidiennes, tandis que les parloirs et les appels téléphoniques, intégralement enregistrés, sont limités à 1 par mois. L'un des grands objectifs de ces conditions de détention draconiennes, régulièrement dénoncées comme inhumaines par des ONG, est de faire de ces détenus des repentis, c'est-à-dire des collaborateurs de justice qui apportent des informations déterminantes pour mieux lutter contre le crime organisé.
En Équateur, le narcotrafic ne s'arrête pas au seuil des prisons. Les gangs continuent de se livrer une guerre violente jusque dans les cellules. Cette guerre a coûté la vie à 600 détenus depuis 2019. Et le gouvernement de Daniel Noboa a du mal, jusque-là, à mieux sécuriser le système carcéral. Aujourd'hui, candidat à sa réélection, le bilan du président n'est pas à la hauteur de ses promesses, Éric Sanson.
Il y a 1 an et demi, le candidat Daniel Noboa avait promis de louer 3 navires-prison et de construire 2 nouveaux centres de détention sur le modèle salvadorien. Premier problème, les 3 navires-prison n'étaient pas disponibles et n'ont jamais quitté les rivages lointains où ils étaient déployés. Quant aux nouvelles prisons, une première devait être construite près de la ville amazonienne d'Archidona, mais la population locale ne l'a jamais acceptée. Après 15 jours de manifestations, le gouvernement a abandonné l'idée à la mi-décembre. Le président Noboa peut cependant se targuer d'avoir commencé la construction d'un centre de détention dans une région isolée de la province de Santa Elena. Prévu pour 800 détenus et les principaux leaders des bandes armées du pays, cette prison, dite de la rencontre, sera dotée de pavillons de sécurité haute, maximale et super maximale, d'inhibiteurs de téléphones portables et satellitaires, de 3 murs de sécurité blindés et de gardes anonymes pour éviter les menaces ou la corruption. Le chantier a cela dit été paralysé pendant 2 semaines après une attaque à l'explosif menée en fin d'année par une 30aine d'assaillants. Le président Noboa ne pourra donc pas l'inaugurer avant le 2e tour de l'élection présidentielle du 13 avril prochain.
Mais même avec une sécurité XXL, il y a toujours eu des failles. En Afrique du Sud, l'affaire Thabo Bester l'a bien montré. En 2022, ce criminel condamné pour meurtre et viol est parvenu à s'échapper de sa cellule de Mangaung avant d'être retrouvé 1 an plus tard, Claire Bargelès.
L'homme de 38 ans est désormais à nouveau derrière les barreaux, en attente de jugement, après 1 an de cavale. Il s'était évadé de l'une des prisons les plus sécurisées du pays, près de Bloemfontein, après un scénario complètement fou. En mai 2022, les autorités retrouvent un corps calciné dans sa cellule suite à un incendie et conclut que le criminel s'est immolé par le feu. Sauf que le vrai Thabo Bester avait en fait pris la fuite, laissant derrière lui le cadavre d'un inconnu. Mais plus que la hauteur des murs, les systèmes de contrôle ou les outils informatiques à disposition des prisons, cette affaire pose la question des failles au niveau du personnel, car c'est avant tout la corruption qui a permis de mettre en place un tel plan d'évasion. Et comme ce centre de Mangaou est géré au travers d'un partenariat public-privé par une entreprise de sécurité britannique, cette affaire jette aussi une ombre sur la privatisation des établissements carcéraux. Le nouveau ministre des services correctionnels a indiqué ne pas vouloir renouveler les contrats des 2 prisons du pays concernées par ce type de statut.
Le tour du monde des correspondants qui se termine avec Claire Bargelès en Afrique du Sud. RFI Matin touche à sa fin. Merci d'avoir suivi ces 3 heures d'information. Merci à Christophe Pernet qui était à la réalisation ce matin. On se quitte en musique. Comme tous les jours, on fait un tour dans la playlist musicale de RFI. On écoute Loose Control, un titre de Young Franco et Earth Gang et Ja Funk. Got me in a chokehold. Take these, hit this, sip some. Lose control. Baseline melodies got me in a chokehold. All day, all night. Can't we lose control?
feel it in my soul. Equilibrium, little high, little low. I ain't worried about the Wi-Fi code. Living in the moment till I get home. We ain't gotta get too close. Don't come around if you can't take a joke. I ain't tripping if you rich or you broke. This a move everybody know.
Baseline, melodies, got me in a chokehold. Take these, hit this, sip some.
Lose control.
Baseline, melodies, got me in a chokehold. All day, all night, can't we?
Lose control.
She say she wanna fly me out, try me out, make her body pay for her potty mouth. Do ya? Try your best when depression choose ya. Your sundress is jumping like the bass while I calculate how much money it'll take till we free from this place. And she laugh, clink glass, think fast. Anywhere in this world you can have, free that mind and that ass.
Ignorance is bliss. Don't tell me shit. You can spill the tea, I'ma sip. Baby, don't get mad, you some real. Shooting from the hip. Shawty got the spread, don't miss. I'm all about my bread and my chips. The music in my head never quits.
Lose control. Lose control.
Baseline, melodies, got me in a chokehold. Take these, hit this, sip some.
Lose control.
Baseline, melodies, got me in a chokehold. All day, all night, can't we?
Lose control.
Lose Control de Young Franco, Earth Gang et Jafunk, un titre que vous retrouvez dans la playlist musicale de RFI. Très bonne journée à l'écoute de la radio du monde. Dans un peu plus d'une minute, c'est le retour de l'actualité internationale.
La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple. Allez vite sur l'onglet « Actu » de votre application et venez rejoindre la communauté WhatsApp de RFI. Ce jeudi, Couleur Tropicale fête ses 30 ans. Claudie Ciard.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Brittany Lenga, nous avons 30 ans. 3 décennies au service des musiques et cultures afro. Nous aurons 2 heures d'antenne sur RFI, 2 heures de fête avec de nombreux invités, beaucoup de musique, des émotions, des surprises et peut-être des larmes de joie. Couleur Tropicale à 30 ans, rendez-vous jeudi 13 mars à 20h10 temps universel, 21h10 en France, toi-même tu sais.